Auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou qui parle de l'actualité ou des faits de société. Vous écoutez ce programme sur les ondes de nos 52 radios et cette télévision partenaire qui diffuse nos contenus dans les 8 régions du Niger. L'accroissement rapide de la population en Afrique subsaharienne constitue actuellement une des préoccupations majeures des planificateurs, des décideurs politiques et administratifs. Cette situation est la résultante de politiques démographiques et de santé encore balbutiante du fait de plusieurs facteurs socio-économiques, culturels et environnementaux. Le Niger n'échappe pas à cette situation. Aujourd'hui, nous allons parler de quelle implication des femmes dans la gestion de leur santé reproductive, quel est le niveau de connaissance de la population en matière de contraception, notamment moderne, quelle compréhension les populations ont-elles de l'utilité de la planification familiale, quelle perception les individus ont de la contraception moderne, quel caractère juridique peut-on attribuer au planning familial. À ces questions et à bien d'autres, nos invités vont essayer de répondre dans ce débat. Il s'agit de Madame Jibo Maimouna, Moussa Maïga, coordinatrice de l'ONG Halassi Iali, et de Madame Choussoreya, licenciée en chirurgie gynéco-obstétrique. Maristop a été conviée, mais ils n'ont pas pu honorer notre invitation. Je suis Rafika Attaher pour la modération. L'avènement de la planification familiale au Niger est une mutation majeure, d'autant plus qu'elle intervient dans un contexte socioculturel et démographique assez particulier. Au Niger, avec différentes mesures et approches, le planning familial semble avoir trouvé l'adhésion des populations. Nous allons commencer par vous, Madame Jibo Maimouna. Comment se présente le cadre officiel des consultations de planning familial?
Je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité. Ici au Niger, les consultations familiales se présentent comme telles. Les femmes se rendent dans les centres de santé, là où elles sont accueillies par les agents qualifiés de santé, les sages-femmes, les infirmiers. Donc, elles sont accueillies et servies comme ça se doit.
D'accord. Et quels sont les différents canaux d'information sur la contraception dont disposent les populations?
Les différents canaux d'information, c'est donc des informations qui se font par des publicités. Il y a des panneaux publicitaires, il y a la télévision, il y a la radio, c'est-à-dire par les médias, une chose. Et en gros. Aussi, quand les femmes se rendent dans les centres de santé, à chaque fois, il y a des sensibilisations, il y a des informations qui se font passer. On leur explique l'importance de planning familial.
On vient vers vous, Madame Ria. Est-ce que les femmes ont des raisons de ne pas pratiquer la contraception? Si oui, quelles sont-elles?
Bonjour d'abord et merci pour l'invitation. Si les femmes ont des raisons de refuser la contraception...
Oui, en tant que licenciée en chirurgie gynéco-obstétrique, qu'avez-vous à dire là-dessus?
Alors, si les femmes ont des raisons, je dirais oui, je dirais non. Mm-hmm. Oui, par méconnaissance. Oui, par manque d'information. Oui, par méfiance. Oui, par manque d'accès aussi. Mm-hmm. Parce que il est aujourd'hui triste, c'est sûr, mais quand même possible qu'on se retrouve aujourd'hui dans des familles où moi, personnellement, j'ai eu par exemple à gérer ce genre de problème dans ma propre famille, où le mari dit, lui, sa femme ne fera pas de contraception. Il veut des enfants. J'ai dit oui, mais ce n'est pas ton organisme. Donc vous voyez, il y a plusieurs paramètres qui peuvent faire en sorte que les femmes, pas forcément par leur propre volonté, mais soient amenées par certaines contraintes à ne pas avoir recours à la contraception.
D'accord. Et comment s'expriment concrètement les relations thérapeutiques lors des consultations de planning familial? Quand une femme se présente dans un CSI pour planning familial, comment est-ce que les consultations se font?
Alors, en gros, quand elle arrive à aller en consultation, ça se passe bien d'habitude. Les femmes sont assez bien accueillies parce que d'habitude, les agents de santé qui sont mis dans ce genre de département sont en général bien briefés. Donc, ils savent comment accueillir les dames, comment les rassurer et comment les guider, parce qu'il s'agit de guider. C'est une décision qui appartient au couple, qui appartient à la famille, mais c'est de guider. En réalité, c'est juste, on te donne tes informations, maintenant à toi de faire ton choix.
D'accord. Yeah. La plupart des pays en développement ont eu à mettre en œuvre une politique nationale de la population au cours de ces 30 dernières années. Pour tous, le début était de résoudre les problèmes démographiques qui constituent un frein au développement économique et social. Madame Maïmouna, quelle place occupe la planification familiale de l'échelle des besoins des populations?
La place qu'occupe la planification familiale, c'est une place très très importante parce que là, la planning familiale, c'est aider les femmes à mieux gérer leur santé reproduction. Donc, il y a les moyens financiers, il y a la gestion, il y a l'éducation, tout ça là fait partie. Donc, il faut bien planifier pour gérer bien la famille.
Donc, quel est le taux de son utilisation? Est-ce qu'il y a des avancées? Parce qu'en 2011, 3,8 millions d'utilisatrices de méthodes modernes de planification familiale ont été enregistrées dans les 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, indique le partenariat de Ouagadougou. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Est-ce que le nombre a augmenté?
C'est que je m'en vais vous dire... Là, vraiment, on est arrivé à faire comprendre aux femmes l'utilité de la planning familiale. Les femmes vont vers les centres de santé pour prendre les choses, les produits des planning familiales. Mais jusque-là, encore, on a du pain sur la planche parce que notre pays est parmi les pays les plus choses hausses de fécondité. Donc, jusque-là, il faut booster, il faut sensibiliser pour encore réduire le taux.
Donc, y a-t-il des avancées ou bien...
Oui, il y a des avancées, mais il en reste encore, je dis.
Ça reste à faire.
Oui, ça reste à faire beaucoup.
D'accord.
Oui.
Madame Raya, y a-t-il des dangers pour l'appareil à utiliser les méthodes contraceptives pour l'appareil reproducteur?
Alors, l'utilisation de tout médicament a un danger. Comme disent les Américains, il y a toujours des side effects. Il y a toujours des effets secondaires. Ça, c'est sûr. Chaque organisme répondra selon sa spécificité parce que chaque être humain est spécifique. Ce qu'on peut dire en matière de planning et dans toute utilisation de médicaments, il faut juste s'assurer qu'on a consulté, qu'on a fait les examens nécessaires et qu'à la base de ces examens, nous avions fait le choix adéquat.
D'accord.
Mais on peut prendre de la paracétamol et se retrouver aux urgences parce qu'on ne sait pas qu'on en était allergique. Donc on peut se retrouver aussi avec des conséquences néfastes suite à l'utilisation des contraceptifs.
Lesquels, par exemple?
Alors, je peux, comme je vous ai dit...
Sur l'appareil reproducteur?
Oui, c'est spécifique à chaque organisme.
Vous avez déjà été témoin de quel cas?
Par exemple, prenons l'implant, les implants qu'on met dans l'avant-bras. Chez certaines femmes, vous pouvez vous retrouver, par exemple, avec de la dépression, par exemple. C'est pas une maladie qui est très connue chez nous. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Des saignements, d'accord? Des problèmes gastriques, d'accord? Donc, ça dépend en fait des personnes. Des amaigrissements, des prises de poids, vous voyez? Donc, ça dépend. Et même de l'hypertension, ça dépend de chaque personne. L'essentiel, c'est vraiment de checker et de trouver la meilleure méthode adaptée à chaque personne.
D'accord.
Ça, c'est les hormonales, c'est dont je parle. Si vous prenez, par exemple, les méthodes mécaniques, prenons l'exemple du DIU, le dispositif intra-utérin ou stérilé, communément appelé stérilé. Alors, le stérilé, vous pouvez, par exemple, avoir une fuite. Normalement, on l'insère avec un fil qui pend dans le vagin et qui devrait servir à le retirer et à le checker à chaque fois qu'on en a besoin. Ça peut fuir, comme on dit. Vous pouvez ne pas le retrouver. Il peut se retrouver ailleurs que là où on l'a implanté. D'accord? Il y est arrivé des cas où on peut le retrouver même dans l'abdomen. D'accord? Ça a perforé. Il peut se déplacer, permettre une grossesse. Donc, on peut avoir aussi de la rétention. C'est-à-dire, pour le retirer, il va falloir opérer. Il n'y a pas de médicaments et de médications sans risque. D'accord? Voilà.
D'accord. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du mercredi 24 mai 2006 la loi sur la santé de la reproduction. En son article 3 qui concerne l'autodétermination, il est stipulé que les couples et les individus ont le droit de décider librement avec discernement des questions ayant trait à la santé de la reproduction dans le respect des lois en vigueur de l'ordre public et des bonnes mœurs. Les couples légalement mariés peuvent décider librement et avec discernement de l'espacement de leur naissance et de disposer des informations nécessaires pour ce faire et du droit d'accéder à la meilleure santé en matière de reproduction. Madame Maïmouna, cette partie de la loi est-elle respectée dans les centres de planning familial?
Oui, bien sûr. Elle est bien respectée dans les centres de santé. Le planning familial, c'est un droit pour tout citoyen. La reproduction, la santé reproduction concerne les femmes, les filles, les personnes âgées, hommes et femmes. Donc là, la personne a le droit d'être informée, éduquée, d'être servie. Quand une femme arrive dans les centres de santé, les agents de santé, ils doivent accueillir cette bonne dame-là, la mettre dans ses droits, la sensibiliser, lui dire pourquoi cette planning familial, lui montrer les différentes méthodes de planning familial, c'est-à-dire faciliter l'accès. Maintenant, c'est à la dame de choisir la méthode qu'elle veut. Et c'est qu'il y ait approprié sans risque, sans allergie. Parce que, comme l'a dit ma collègue, il y a certaines dames qui sont allergiques à certaines méthodes
Maïmouna,
de planning.
Oui, est-ce que vous avez déjà eu à constater des caractères obligatoires, par exemple des femmes qui ont été obligées de pratiquer la planification familiale?
Je vais vous répondre là non, parce que la planning familiale n'est pas obligée. C'est-à-dire juste on sensibilise la femme si elle accepte, si son mari accepte, on pratique. Parce qu'on arrive à avoir des cas là où c'est les maris qui refusent à ce que leur femme pratique cette planning familiale liée souvent à la religion. Donc, elles se disent que ce n'est pas dit dans le Coran. Ils disent que c'est Dieu qui nourrit. Il est bien vrai que c'est Dieu qui nourrit. Mais donc, eux, ils se mettent en tête que ils vont pas pratiquer le planning, il va laisser sa femme accoucher et puis sans espacement.
Dans ce cas de fait, qu'est-ce que vous faites?
Dans ce cas, donc, nous, notre boulot, on va continuer suivre cette personne jusqu'à domicile, discuter avec la personne à l'amiable, essayer de le convaincre, de le ramener à comprendre. Et la plupart nous comprennent. On insiste, on fait comprendre à la dame. On demande à la dame de faire raisonner son mari, de lui faire comprendre que c'est juste pour la santé de la femme, aussi pour la santé de l'enfant.
D'accord. Donc, en résumé, la femme, elle est toujours orientée vers la planification familiale avec son consentement.
Oui, bien sûr. Avec son consentement et le consentement du mari.
D'accord. Toute femme a le droit de procréer et est libre de le faire aussi souvent et aussi peu souvent qu'elle le désire selon cette même loi. Quel est le niveau de compréhension de cette loi par la population, Madame Réa?
Alors, honnêtement, je vous dirais que je ne suis pas convaincue qu'elle soit assez divulguée. Pas par manque de la divulgation, justement, de l'information, mais peut-être par la limitation de l'accès à l'information, les moyens de l'information. C'est une loi. C'est pas tout le monde. Bon, peut-être si bien expliqué dans nos langues, ça pourrait aller, mais c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, les différents canaux que nous avons d'information, par exemple en zone rurale, sur les radios, qui écoutent les radios, les femmes n'ont pas ce temps. Nous sommes d'accord. Elles sont occupées là où nous savons. Ce sont les hommes. Ils transmettront l'information si ça les intéresse. Sinon, ils ne le feront pas. Vous voyez? Et je peux vous dire, même parmi la population que nous appelons intellectuelle, ce n'est pas tout le monde qui a connaissance de cette loi. Mais par contre, ce que je sais, même nos lois islamiques ne sont pas toujours très bien connues de notre population.
D'accord. Madame Maïmouna, quel est le niveau de compréhension de cette loi par la population ? Que la femme, elle a le droit de procréer et libre de le faire aussi souvent et aussi peu souvent qu'elle le désire. À quel niveau de compréhension est la population par rapport à cette loi ?
Bon.
Là, vous nous avez dit il y a quelques instants que des fois le mari il n'est pas d'accord. Donc, est-ce que cette loi-là n'est pas un peu...
Bon, là, je vois que la population commence à comprendre la nécessité de la planning familiale. C'est une minorité qui continue à résister à dire que avec l'islam c'est pas permis de réduire les naissances. Nous continuons à sensibiliser la population, à la faire comprendre l'utilité de cette planning familiale. Donc, je crois qu'il y a un progrès.
Selon vous, est-ce que vous pensez que la population sait que la femme, elle a le droit ou non de procréer? C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Est-ce que la femme, elle sait qu'elle a le droit de vouloir procréer ou pas?
La femme a bien le droit de procréer.
Est-ce que la population, elle est consciente de ça?
Quand on dit la femme a le droit de procréer, ça elle a le droit de procréer, mais... sachant qu'il y a des risques, sachant qu'il y a des risques énormes, on essaye de planifier. Et c'est en ce moment qu'on cherche à sensibiliser, à faire comprendre que le fait de procréer est nuisible. Donc, il faut espacer, il faut mettre à l'aise les enfants même, et cette bonne dame.
Nous allons maintenant écouter des témoignages d'illustration de quelques femmes recueillies dans la région de Maradi qui nous parlent de comment elles sont parvenues quand même à faire ou non la contraception.
Nous avons opté pour la planification familiale pour nous reposer un peu, car l'espacement de naissance est très important pour la santé de la femme et même celle des enfants. J'ai eu l'initiative toute seule. Ensuite, j'ai contacté mon mari, il m'a donné son accord, vu que j'ai souffert aux deux derniers accouchements. J'ai mis au monde 10 enfants, et Dieu merci, ils sont tous vivants et bien portants.
Franchement, c'est une décision que je n'ai pas prise toute seule. C'est mon époux qui avait voulu qu'on adhère à la planification familiale parce qu'il m'a d'abord expliqué qu'il préfère que l'enfant mûrisse un peu avant d'en faire un autre. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans cette vie. Ensuite, la façon même d'éduquer les enfants par ces temps-ci, c'est un peu compliqué. Et tout plein de raisons qu'il a eu à m'expliquer et auxquelles j'ai fini par adhérer. Mais au tout début, ce n'était pas vraiment de mon plein gré. Ça lui plaît et c'est lui qui en a décidé que je dois faire ces injections. On a vraiment tiraillé au début, puisque c'était son avis à lui. Il le voulait et moi pas du tout. Mais comme il a pris tout son temps pour communiquer avec moi, pour m'expliquer les avantages, j'ai fini par accepter.
C'est malgré moi que j'ai fait la contraception. J'ai jamais voulu faire ça. J'ai accepté pour faire plaisir à mon mari. Vu qu'on n'a pas assez de moyens, faire beaucoup d'enfants n'est pas raisonnable. La prise en charge n'est pas facile de nos jours. Voilà les raisons qui m'ont poussé à porter les implants.
La planification familiale, c'est pour que l'on puisse allaiter et sevrer son enfant sans aucune complication. Et surtout, pour ne pas contracter une autre grossesse alors que le bébé n'a même pas fini d'être allaité. C'est aussi pour laisser le temps à l'enfant de s'épanouir, d'apprendre à marcher et d'être sevré sans aucun souci, qu'il ait au moins 2 ans. J'ai 5 enfants et j'ai fait un espacement de 3 ans entre mes enfants. C'est très bien et ça a beaucoup d'avantages parce qu'à présent, je peux mettre autant d'années qu'il le faut entre mes grossesses.
Voilà, Madame Maïmouna, qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages?
Oui, bon, je trouve que ces témoignages est très juste qu'elles disent que le fait de planifier permet à l'enfant de s'épanouir et ça permet aussi de bien éduquer les enfants et qu'elle ait aussi l'accord que son mari vienne l'aborder, lui demander de pratiquer la planning familiale, c'est déjà un point de gagner que c'est le mari même qui est venu vers elle et qu'elle a accepté de le pratiquer. Maintenant,
malgré elle, là, elle dit que c'est malgré elle.
Elle a
donc,
bien dit
que cette loi n'est pas mise en jeu.
Bon, elle a bien dit que c'est malgré elle. Elle a quand même accepté. La loi ne peut pas être mise en jeu là parce qu'elle a accepté, elle n'a pas tiraillé avec le mari. Elle a bien réfléchi. Mm-hmm. C'est-à-dire, le mot qu'elle ait accepté, c'est déjà un point de gagner, c'est bon.
D'accord. Oui. Bon, elle a accepté, mais c'est quand même malgré elle qu'elle a fait la planification familiale.
À son tour même, elle va voir que tellement que c'est nécessaire, jusqu'à qu'elle-même, elle va aller même sensibiliser ses camarades à accepter de pratiquer.
D'accord. Madame Raya, que pensez-vous de ces témoignages?
Alors, comme dit la loi, aussi souvent ou aussi peu souvent, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Alors, malgré elle, je pense que le mari n'avait pas le droit. On est d'accord. Bon, maintenant, développer. C'est une affaire de couple.
Mm-hmm.
Du moment où elle dit qu'elle a accepté, fallah alhamd. Mais le cas de figure qui se présente le plus, c'est la femme veut, le monsieur ne veut pas. Ça, c'est vraiment singulier. Et je pense que cette loi, comme je l'ai dit, elle est quand même assez ignorée par la gente masculine, surtout. Parce que si tu sais que ta femme a le droit de faire autant d'enfants qu'elle veut, tu n'as pas à le lui interdire. Tout comme si tu ne veux pas, c'est une question de discussion. Elle a quand même le droit d'en faire autant qu'elle veut.
Mm-hmm.
Donc, c'est surtout ça.
D'accord.
C'est surtout ça. C'est une question, de toutes les manières, même religieusement, c'est ce qu'on dit. C'est une affaire du couple. Le
D'accord.
couple se concerte et maintenant, à l'issue de la concertation, ils adoptent la meilleure décision qui leur convient et qui fera du bien et à la mère, et au père, et à l'enfant.
D'accord. Là, vous avez surtout mis l'accent sur la femme qui a été poussée par le mari à faire la planification familiale. Il y a d'autres femmes qui disent que la décision émane d'elle-même. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Là, que la femme décide elle-même de pratiquer cette méthode de planning familial, c'est déjà bien parti. Et qu'elle décide aussi, il faut aussi l'accord du mari. Parce que là, ce n'est pas à une seule personne, c'est au couple d'en décider.
D'accord.
Que je sache.
Mm-hmm. Mm-hmm. Madame Raya, avez-vous déjà été témoin, de patientes réticentes concernant la contraception?
Oui, il y en a qui n'en veulent pas.
Pourquoi?
Alors, les raisons sont multiples.
Mm-hmm.
J'ai une co-épouse.
Mm-hmm.
Je veux faire autant d'enfants qu'il faut. Je n'arrive pas à trouver le contraceptif qui me convienne. Par exemple, comme je vous ai évoqué, par exemple, plusieurs effets secondaires. Il y en a, dû à leur état de santé, qui n'arrivent pas à trouver le bon choix. Donc finalement, elles abandonnent. Ok? D'autres, à cause de certains préjugés. D'autres, pour des raisons qu'elles ne voudront peut-être jamais, mais elles ne le feront pas quand même.
Qu'est-ce qui peut expliquer la réticence de certaines femmes à adopter la planification familiale ou à poursuivre quand elles l'ont déjà adoptée?
Elles l'ont déjà adopté mm-hmm. et qu'il y a eu des ratés dès au début. Par exemple, le choix n'a pas été adapté à la femme. Et les conséquences qui auront résulté de l'utilisation peuvent faire en sorte qu'elle ne veuille plus. J'ai pris des hormones, il ne me fallait pas des hormones. Je me suis retrouvée avec des soucis de santé. Je retourne plus. Quel que soit ce que vous allez me dire, je vais fuir. Comme on dit, chat échoué craint l'eau froide. Vous voyez? En tout cas, pour la plupart, quand la femme a déjà commencé, c'est surtout les effets secondaires qui font en sorte que d'autres abandonnent. C'est surtout ça. Ou peut-être que c'était une initiative personnelle et que ça a créé des tensions dans le couple. Ça peut arriver. Il y en a qui prennent en catimini. Les maris ne sont pas au courant. Quand ils le découvrent, ça crée des histoires. Maintenant, comme on a dit, effectivement, la femme, la loi lui accorde le droit de faire ou pas. Mais n'oubliez pas, c'est une question de couple. C'est D'accord. vraiment une question de couple.
Par exemple, est-ce que l'utilisation de la contraception peut avoir des impacts sur la fertilité ou autre? Quel impact ça peut avoir sur l'appareil reproducteur?
Alors, s'il y a des impacts ou non sur l'appareil reproducteur, mm-hmm. je dirais oui.
Mm-hmm. Oui. Lesquels?
C'est la femme est programmée de sorte à avoir un saignement cyclique. Ça dépend, long cycle, court cycle, moyen cycle. Mais c'est cyclique, d'accord? À moins qu'elle ne soit malade, ce qu'on appelle les métrorragies, la prise de certaines hormones peut faire en sorte que la femme se mette à saigner en dehors de sa période de règles, comme mm-hmm. on dit, d'accord? Et en dehors, il y en a qui pensent que ça peut avoir, ça peut faciliter l'apparition des fibromes, par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais par exemple, si ça trouve un souci, il y a certaines tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes, qui peuvent être réceptives aux hormones. Mm-hmm. Donc ça peut accélérer.
À quel âge est-il préférable de commencer la contraception?
À quel âge est-il préférable de procréer? À quel âge? Je peux procréer, je peux faire recours à la contraception. Mais personnellement, si ça c'est mon avis personnel.
En tant que chirurgien obstétrique?
Non, en tant que femme. Mm-hmm. Je d'accord. suis femme, oui. d'accord? Mm-hmm. Il faut d'abord connaître son organisme. Vous savez, un organisme, il faut apprendre à le connaître, à le dompter. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais il faut connaître votre organisme. Comment je marche d'abord?
On ne vous entend pas bien.
Excusez-moi. Comment je marche d'abord? Ok? Maintenant, si je sais comment je marche, je peux adapter, je peux déjà imaginer la contraception que je peux prendre. Ok? Maintenant, je peux aller conforter, enfin, mon intuition par rapport à ce que je sais. Je m'explique. Après mon premier enfant, personnellement, je n'ai pris aucune méthode contraceptive. Je préférais peut-être faire un enfant tout juste après l'autre, mais je veux savoir moi comment je marche. Mm-hmm. Il y a des femmes, par exemple, qui ont ce qu'on appelle la contraception naturelle. Mm-hmm. J'allais très bien mon enfant, je n'ai pas de cycle. C'est vrai que c'est risqué, parce que le cycle peut reprendre à tout moment. La femme, c'est un être vraiment complexe. Mais quand même, tout comme ça peut marcher. Moi, j'ai eu la chance. J'ai eu 15 mois, 17 mois entre mes deux filles. Mmh. D'accord?
Contraception naturelle.
Contraception naturelle. J'allais comme une folle, matin comme soir. Et quand même, pas de ménage avant les 15 premiers mois. D'accord. Donc, le temps que l'autre naisse, et la petite avait déjà 2 ans et demi, elle allait à l'école. Mm-hmm. C'est pas donné à tout le monde, ok? Le mieux, c'est d'aller consulter et de trouver au plus tôt la méthode qu'il nous faut.
D'accord. Madame Maïmouna, est-ce qu'il y a des femmes qui ont déjà eu à interrompre leur planification familiale?
Ça c'est très fréquent que les femmes interrompent leur planning familial suite souvent à des choses, des effets secondaires, des saignements, des femmes qui présentent des saignements, par exemple des femmes qui portent Norplan, après c'est des saignements, après c'est des nausées, il y a plein de choses que ça présente. Il y a aussi avec la méthode de peau prévera, deux fois ça donne aussi des saignements aux femmes, donc la femme est obligée d'interrompre cette pratique. Donc là, elles font recours aux agents de santé, elles reviennent dans les centres de santé. Là, les agents de santé, la sage-femme, décident de changer de méthode à cette bonne dame.
Après des examens, bien sûr.
Oui, bien sûr. Après des examens appropriés, pour savoir quel est le problème. Deux fois, quand la femme est hyper tendue, il y a telle méthode qui lui convient. Deux fois, c'est-à-dire, il y a plein de choses qu'il peut entreprendre que la femme, qu'on change à la femme de méthode de contraception.
D'accord. Est-ce que dans les centres de santé, intégrer la contraception a un coût?
Non, je ne pense pas. Dans les centres de santé, partout, en tout cas au Niger, c'est gratuit.
Quelles sont d'abord les méthodes contraceptives?
Il y en a plusieurs méthodes. Il y a le stérilet qu'on place. Je ne vais pas approfondir.
Mais c'est... si, expliquez.
Bon, le stérilet, c'est juste un plastique, chose. On introduit dans le vagin de la femme juste pour que ça, ça serve de contraceptif. Là, ça ne permet pas de concevoir quand, une fois placé. Et là, il est contrôlé par cette dame-là, parce que une fois aux toilettes, toujours l'agent de santé sensibilise la femme qu'elle fasse attention de à chaque toilette si elle sent le fil ou pas, parce que là, il arrive à des moments où ça peut se déplacer, ça peut perforer, être à un endroit
comme la soulever
qui n'est pas approprié, comme l'a dit ma collègue, et là il faut une intervention chirurgicale pour enlever ça. Donc vous voyez, tout ça peut arriver.
D'accord.
Et d'autre part, je disais qu'il y a les injections de peau prévera qui chez certaines femmes ça provoque des saignements intenses, et la femme est obligée de revenir vers les centres de santé, demander à changer cette méthode. À part ça, il y a le Norplan qui est là. Là aussi, chez certaines femmes aussi, là, ça donne des nausées, amaigrissements, des céphalées. Il y a plusieurs choses que ça peut provoquer. À part ça aussi, il y a la pilule, l'eau féminale, ça aussi... Des femmes en prennent, ils reviennent nous dire qu'ils ont des nausées, qu'ils ont des insomnies. Il y a tout un tas d'allergies. Si... Et là maintenant, si ça se présente, ce cas se présente, on change toujours à la femme. Chercher quel est le problème et voir quelle est la méthode qui convient à cette bonne dame.
D'accord. Est-ce que vous rencontrez des obstacles dans la diffusion de toutes ces méthodes-là?
Oui, dans toutes choses, il y a des obstacles. Il y a des obstacles quand tu présentes ces méthodes à ces femmes-là. Deux fois, il y a certaines qui arrivent à accepter très difficilement. Il faut sensibiliser, il faut chercher à convaincre pour que la femme accepte ta proposition.
En perspective, Madame Reya, de la dynamique relationnelle entre prestataire et patiente, que pourrait-il être fait pour favoriser le recours à la contraception en milieu médical?
La première des choses, c'est d'abord d'accentuer, par exemple, la formation des agents prestataires même. C'est vrai que beaucoup d'efforts sont faits déjà, mais ça pourrait toujours être amélioré en matière d'accueil. Parce que souvent, qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes sont réticentes? Ce sont certains préjugés. Elles vont mal t'accueillir, elles vont mal te parler, elles vont t'obliger, ou bien elles vont te bourrer la tête avec des choses qui n'ont ni tête ni queue, ce qui n'est pas vrai, mais qui le sont malheureusement dans certains cas. D'accord? Donc, d'attirer très bien l'attention des agents prestataires pour qu'il y ait vraiment des méthodes optimales qui peuvent faire en sorte que les patientes aient l'envie de venir vers elles. D'accord, ça c'est une première chose. Deuxième chose, les médias peuvent énormément aider à faire en sorte qu'il y ait vraiment une meilleure compréhension de ces méthodes contraceptives et de telle sorte à encourager les femmes à aller se faire consulter et comprendre. Mais n'est pas limiter aussi la cible seulement aux femmes. Parce que comme je vous ai dit et je le soutiens, la contraception est une affaire de couple. Que quoi qu'en dise la loi. Donc, le couple doit être au même niveau d'information de telle sorte à pouvoir opérer son choix et à aller vers les agents de santé qui peuvent les aider à faire un choix optimal.
D'accord. En tant que chirurgien gynéco-obstétrique, quelle est la contraception la mieux adaptée selon vous pour les femmes?
C'est un choix. Chaque femme est spécifique. Elle a sa culture. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a, par exemple, qui veulent la méthode mécanique, qui ne peuvent pas l'adopter. Parce que, par exemple, l'appareil a eu certains traumatismes qui font en sorte qu'il ne peut pas l'adapter. D'accord? Et il y en a qui veulent les méthodes hormonales, mais qui ne peuvent pas, parce que leur état de santé ne le permet pas. Si, par exemple, vous êtes hypertendu, on ne va pas vous donner des hormones, parce que ça peut accentuer le problème. Ça dépend de l'état de santé et de la spécificité de chaque femme. Mmh. Il y en a, par exemple, qui peuvent adopter les deux méthodes, mais à cause, par exemple, de certains préjugés ou de sa culture ou de ses conceptions de la vie, te dira, par exemple, qu'elle préfère les méthodes mécaniques parce qu'elles ne veulent pas d'hormones.
D'accord.
D'accord? Ça dépend vraiment de la personne.
On va terminer avec vous, Madame Maimouna. Comment faire pour déterminer les difficultés rencontrées et les solutionner?
Pour combattre les difficultés rencontrées, il faut approcher la population, connaître leur avis. D'abord, pour faire cette planning familial, il faut rencontrer les femmes là, il faut les rencontrer d'abord, leur proposer la planning familiale ou bien demander à celles qui ont déjà eu à pratiquer cette planning familiale quel est le problème, quels sont les problèmes qu'elles ont rencontrés afin de trouver les solutions. Si la femme, il y a une méthode qui ne convient pas à cette dame-là, faire des examens, trouver où se trouve le problème, changer à cette bonne dame de planning familial. Et en plus, dans les solutions, continuer à sensibiliser les femmes, l'importance de cette planning familial, parce que là, on n'a pas parlé, j'aimerais bien parler des jeunes filles, parce que on n'a pas parlé dans notre parcours des jeunes filles, parce que les jeunes filles aussi, dans notre communauté, je trouve que doivent être sensibilisées sur cette méthode de planning familial afin d'éviter les grossesses non désirées. d'éviter les décès infantiles, les infanticides. Il faut sensibiliser, par exemple, la fille qui n'arrive pas à s'abstenir.
Mm-hmm.
Il faut la sensibiliser, la guider vers les centres de santé pour qu'elle puisse se mettre à prendre les méthodes de planning familial. En plus, pas les jeunes filles seulement, même les jeunes garçons aussi à se préserver. Si vous me le permettez, je crois que c'est un peu de tourner votre question.
Mm.
Là, je trouve que
oui, allez-y.
Tout ça y est dans le sujet.
Si, c'est important. Oui, vous pouvez.
Voilà. Mm-hmm. Parce que là, il faut sensibiliser et les jeunes filles et les jeunes garçons à se à se préserver, parce que là ils sont exposés à des multiples infections, des multiples maladies comme le VIH/SIDA. Donc là, il faut pas que ça soit un tabou pour eux. Il faut qu'ils les orienter vers les centres de santé. Il faut que dans la famille, que la maman dialogue, qu'elle discute avec ses enfants.
Mm-hmm.
Savoir dès que l'enfant est en âge de procréer, connaître quel est le statut de ton enfant, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il connaît comment s'y prendre, mm-hmm. est-ce qu'il se protège.
D'accord.
Parce que il coûte beaucoup de dangers.
Pour clôturer cette émission, les plus grands obstacles à la pratique contraceptive sont les craintes d'effets secondaires et les préoccupations de santé associées aux méthodes qui dissuadent les femmes de les utiliser, de même que l'opposition à la contraception. Il importe de surmonter ces obstacles parmi d'autres et aider les femmes et les couples à limiter leur famille au nombre d'enfants désirés. La contraception se confirme comme une responsabilité que les femmes doivent gérer, même si plusieurs formes d'autorité influencent cette gestion. L'obligation des États d'assurer ces droits exige que les femmes et les hommes disposent non seulement des informations et des services complets en matière de santé génétique, mais aussi qu'ils aient la possibilité de prendre des décisions concernant leur sexualité et leur capacité procréative en toute connaissance de cause, sans violence, discrimination ni contrainte. Selon la norme contraceptive, toute naissance se doit d'être désirée et programmée, mais le droit de choisir le moment d'être mère s'accompagne en même temps de la lourde responsabilité de faire ce choix. Nous sommes au terme de ce forum. Nous étions en compagnie de Mme Jibo Maimouna Moussa Maïga, coordinatrice de l'ONG Halassi Iali, et de Mme Tchousso Reya, licenciée en chirurgie gynéco-obstétrique. Merci chers invités de nous avoir accompagnés dans ce débat. Merci également à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. C'était Rafika Taher à la présentation, à la technique Mustapha Ayouba, à la régie vidéo Seyni Isaka. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre forum du studio Kalangou. Excellente soirée à tous et au revoir.